Ciné B, la chronique du cinéma A. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, Ciné B va vous parler de deux films. Le bruit des glaçons, de Bertrand Blier, et un film qui se trouve dans une exposition qui s'appelle « Prendre la porte et faire le mur ». Le bruit des glaçons, le dernier film de Bertrand Blier. Il y a les gens qui aiment Bertrand Blier, les gens qui n'aiment pas Bertrand Blier. Moi, personnellement, je trouve que Bertrand Blier est un cinéaste qui doit exister. Bertrand Blier est un cinéaste qui a son style propre, donc c'est bien que nous ayons la chance d'avoir Bertrand Blier. Personnellement, j'aime moyennement ses histoires. Je les trouve trop irréelles ou alors trop proches de la vie de tous les jours. Souvent, cela finit en queue de poisson ou alors en hystérie collective. On me fait justement remarquer que c'est ça la vie, c'est l'hystérie collective. Eh bien, la différence entre Bertrand Blier et le Bertrand Blier du bruit des glaçons, c'est que là, nous avons droit à du cinéma. Du mystère, de la surprise. L'histoire, vous la connaissez, Jean Dujardin atteint d'un cancer, Albert Dupontel, son cancer. Albert Dupontel sonne. Et à travers le visiophone, Jean Dujardin le voit et il lui annonce, et Albert Dupontel lui annonce, je suis votre cancer. Normalement, je n'avertis pas, je préfère venir à l'improviste, etc., etc. Albert Dupontel est un cancer magnifique, horrible, cruel à souhait. Mais surtout Albert Dupontel, quand il arrive, a l'air d'une méduse, une vraie méduse, avec des cheveux gras, des cheveux qui dégoulinent, des espèces de petites frisettes absolument abominables. Allez voir Le bruit des glaçons, c'est une histoire d'amour magnifique. Un scénario qui... Je ne dirais pas qu'il finit bien ou qu'il finit mal, mais en tous les cas, on peut sortir de ce film un peu comme on sort quand on voit enfin une bonne comédie de Woody Allen. Je ne sais pas si vous avez vu ce vieux film de Marcel Carné où à la fin l'amour gagne, l'amour est le plus fort. Et Jules Berry, qui est le diable, en a marre parce que c'est l'amour qui gagne et il entend le cœur des époux, des gens aimables qui continuent à battre malgré qu'il les ait changés en statues de pierre. Là, vous verrez cela à voir, mais c'est plus simple, c'est plus contemporain, c'est plus léger et ce n'en a qu'un plus bel éclat. Encore une fois, allez voir Le bruit des glaçons. C'est un conseil de Ciné B. Ciné B, la chronique du cinéma A. Prendre la porte et faire le mur, c'est une exposition qui se passe au FRAC, qui est du 11 septembre au 11 décembre 2010. Prendre la porte et faire le mur, une porte, des murs, une exposition, ou comment les artistes transforment l'exposition en matériaux de travail, à partir d'œuvres de la collection du FRAC et de pièces produites ou empruntées pour l'occasion, prendre la porte et faire le mur explore le potentiel de l'espace d'exposition, ses fantasmes, ses anecdotes, ses humeurs, ses transgressions, son insoumission, etc. Voilà, c'est une exposition de Florence Ostend. Ce qui a intéressé Ciné B dans cette exposition, c'est un film. Un film qui s'appelle Flash in the Metropolitan, 2006. C'est un film de deux artistes, une qui s'appelle Rosalind Natsashibi, je pense qu'elle est japonaise, et une autre artiste qui s'appelle Lucy Skaer. Toutes les deux vivent et travaillent à Londres. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont fait un film qui d'abord est un vrai film, dans la mesure où il est tourné en pellicule et qu'il est en 16 mm, et qu'on doit obligatoirement, lors du parcours de l'exposition, commencer par ce film et finir par ce film. C'est une boucle. La boucle est bouclée, comme le film. Comme le film qui, lui, est sur un dérouleur sans fin. La mécanique est absolument prodigieuse sur ce genre de projecteur. Vous voyez le projecteur, vous voyez un dérouleur sans fin. C'est-à-dire que le film tourne sur lui-même. Et une fois qu'il est fini, eh bien, il est au début. C'est la magie du cinéma. Allez voir ça, parce que vous verrez du vrai cinéma. Et pourquoi ne pas montrer une vidéo ? Et pourquoi montrer un film ? Est-ce que c'est vraiment important ? Surtout que cela coûte plus cher, que ce projecteur 16 mm avec l'installation du dérouleur sans fin coûte au moins 5000 euros. Il doit y avoir 2000, 2500 euros de maintenance. Pourquoi tout cet argent ? Eh bien, parce que la mécanique du cinéma prend toute son ampleur et est obligatoire pour faire fonctionner l'œuvre.
Thank you.
Ciné B, la chronique du cinéma A. Flash in the Metropolitan. Vous savez, le Metropolitan à New York, c'est un énorme musée. Un musée où il y a des collections extraordinaires, des collections de l'ancien temps, des collections de musées, des collections de divinités religieuses, de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Alors lorsqu'on arrive, car c'est un film, mais c'est aussi et avant tout une installation. Ciné B en parle en tant que film et en tant qu'installation. Donc, il y a une autre émotion. Quand vous rentrez dans la salle de cinéma, vous vous asseyez, il y a les nez de marche, vous regardez les bandes annonces, etc., etc. Bon, et crac, le film part. L'installation, c'est la publicité, c'est la réclame. Et ensuite, le film, ce qu'on attend. Là, on rentre dans une exposition. On ne sait pas ce qu'on va voir. On ne sait pas qu'on va voir du cinéma. Et la première chose qu'on fait, justement, on rentre dans un sas, puis un autre sas, ce qui nous permet d'être dans le noir. Il y a comme une respiration du noir, et puis ce qu'on croit d'abord voir rapidement comme des diapositives. Vous savez, ces diapositives qu'on regardait entre nous, en famille, un peu l'horreur, quoi. Et comme on est dans le noir et qu'on voit comme des respirations de la lumière, et puis du noir, de la lumière, et puis du noir, de la lumière, et puis du noir, on comprend qu'il y a comme des pulsations. On finit par voir un banc, on s'assoit, et comme le film dure 6 minutes, on se dit qu'on va le regarder. Que se passe-t-il ? Nous voyons de légers panoramiques qui éclairent des vases étrusques, et puis le noir, et puis le contour du vase, et le vase qui réapparaît, puis d'autres images qui se suivent. Nous avons l'effet d'être rentrés dans ce musée, dans ce magnifique musée, par effraction. Et c'est peut-être là, effectivement, le meilleur moment pour regarder l'œuvre. Regarder l'œuvre par effraction. Lorsque vous allez au Metropolitan Museum, c'est tout un passé qui s'abat sur vous. Des œuvres gigantesques qui, de plus, sont sous des vitrines, sur des cubes, sur ce fameux cube blanc. Là, rien de tout cela. Vous êtes là par effraction et vous pouvez apercevoir, je dis bien apercevoir, quelques images. Ensuite, c'est le noir. Allez voir cette exposition, allez voir ce film. De toute façon, vous commencerez avec ce film et vous finirez avec ce film et vous comprendrez pourquoi il est si important. Thank you. Flash in the Metropolitan. C'est une œuvre de 2006. C'est une œuvre de respiration. Si l'on commence par cette exposition, c'est parce que, bien évidemment, on est dans la matrice. C'est une œuvre de respiration où, de façon détournée, de façon un peu volée, on prend comme ça des moments d'image. On les éclaire et on se retrouve dans le noir. On a affaire à de la respiration. C'est un film de respiration. On rentre par réfraction dans l'ancien temps et on est filmé par la mécanique d'un temps qui représente le mieux. Voilà, allez voir ça, c'est vraiment très beau. Alors, il y a toujours une question dans cette émission qui est posée, que posait Bazin, que posait Danet, et qu'on peut poser nous aussi, puisque on n'est pas prétentieux, en la posant. On peut le devenir en y répondant. La question est simple. Elle a même fait le numéro 50 de l'été 2004 de la revue de cinéma Trafic, qui a été fondée par Serge Danet. La question est simple. Qu'est-ce que le cinéma? Donc je vous conseille de lire ce Trafic numéro 50. Il y a André Bazin, René Belletto, Raymond Bellour, Alain Bergala, Jean-Claude Biette, Catherine Breillat, Georges-Louise Borges, Nicole Brenez, Éric Bulot, Emmanuel Burdeau, Carlos Diegues, Stéphane Voskin, notre grand documentariste, Atom et Goyan, etc., etc. Je vais me permettre d'en citer un. Souveraineté lucide et rieuse au sein de la terreur. Peckinpah, Bataillon. Ou encore, gros plan inattendu. Epstein, Buñuel. C'est pas mal, hein? Trafic, numéro 50. Un art du geste et de la parole. Si tu veux parler, commence par te taire. La force révolutionnaire du passé. Faisons hériter de la meilleure tradition. C'est pour cela, chers auditeurs, que j'essaierai toujours de vous pousser à voir des films soi-disant anciens, car bien évidemment ils restent modernes. La force révolutionnaire du passé. Faisons hériter de la meilleure tradition. Je me répète, exprès. Il y a quelques années, le MAC, le Musée d'Art Contemporain, avait fait une intégrale Joao César Monteiro. Il parle lui aussi du cinéma, de la clandestinité, de l'air, de la souveraineté, de l'inattendu, du geste et de la parole, du passé révolutionnaire. Joao César Monteiro. Il y a bien évidemment toutes les notes sur le cinématographe de Robert Bresson. Vous savez, Robert Bresson, ce cinéaste qui a commencé par faire des films au départ plutôt standards, soi-disant, comme Les Anges du Péché ou Les Dames du Bois de Boulogne. Il a même fait un moyen-métrage qu'il a réfuté à faire public. Et puis d'un coup, soudainement, il est décidé de se servir de ses personnages pour en faire des personnes sans identité aucune, pour trouver quelque chose de faux dans le vrai, quelque chose de très complexe, de très compliqué. En tous les cas, de temps en temps, quand on voit un film de Robert Bresson, lorsqu'on sort dans la rue, on est un peu comme dans les films de Robert Bresson. Si ce n'est qu'au moment où le réel nous apparaît, on redevient ce qu'on était. Ciné B, la chronique du cinéma.